PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente.
Sud Radio, on parle immo.
On parle immo, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, et c'est bien sûr avec Marc Ezrati. Bonjour Marc.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Et comme d'habitude, on démarre avec le journal de l'immo.
Sud Radio, on parle immo, le journal.
Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles.
Et pour commencer, Marc, l'histoire d'une propriétaire qui est prête à entamer une grève de la faim pour que son locataire parte. Bon, a priori, l'affaire s'est plutôt résolue, non ?
Résolue, oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Ça s'est passé à Issoudun, c'est dans l'Indre. Un locataire de 21 ans ne payait plus de loyer à sa propriétaire depuis 2 ans. Après avoir obtenu l'annulation du bail en février 2021, puis l'expulsion de son locataire en juillet de la même année, rien n'a bougé et... D'ailleurs, en début mai, le locataire était toujours dans la maison. Après avoir médiatisé son histoire et avoir, en menaçant de démarrer une grève de la faim, la préfecture a finalement accéléré la procédure. Le 11 mai dernier, la propriétaire a enfin pu récupérer sa maison.
Sans transition, comme on dit, autre info. Alors là, c'est l'histoire d'un penthouse en vente à Paris, et pas n'importe où, hein, au sommet d'un palace parisien,
exactement.
C'est ça ?
Exactement. Et quand on a les moyens de débourser quelques millions d'euros, ce penthouse est un véritable bijou. Hein. Donc, en duplex, je vais vous faire rêver là, Laurence.
Il faut avoir les moyens.
381 mètres carrés, en duplex donc, 8 pièces, une jolie terrasse. Et alors, on l'a dit, hein, l'appartement est situé au sommet d'un palace du Triangle d'Or parisien, dans le 8e arrondissement. Le futur acquéreur pourrait, de fait, profiter d'un service hôtelier 5 étoiles, d'une conciergerie ouverte 24 heures sur 24 et sur l'accès au spa et à la piscine sans aucune restriction.
Vous ne nous avez pas dit le prix, hein, d'ailleurs. Hein.
Le prix, c'est plusieurs millions d'euros, il n'est pas connu.
D'accord, ok, mais enfin, on a une petite idée quand même sur la question. Allez, on finit avec l'annonce que vous avez sélectionnée chez nos partenaires Gardien Recrute.
Et cette semaine, c'est une copropriété de 355 lots située à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine, qui recherche un couple de gardiens d'immeubles pour assurer quelques missions importantes, hein, notamment la surveillance du bon fonctionnement des 8 ascenseurs de la résidence et des 2 chaufferies. Voilà, et encore d'autres tâches administratives. Alors, pour ce poste en CDI, le salaire est de 3 341 euros par mois. Un logement de 60 mètres carrés est également prévu. On retrouve cette annonce, comme d'habitude, sur gardienrecrute.com.
Merci beaucoup, Marc, pour toutes ces infos. Et tout de suite, on retrouve l'instant réno avec Céline Chahi.
Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation, une fois n'est pas coutume, de la pompe à chaleur. Comment fonctionne cet équipement ? Comment peut-on l'installer ? Dans quel type de maison ? Les réponses avec Katia Léal. Bonjour Katia.
Bonjour Céline.
Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors, une pompe à chaleur, ça marche comment ?
Eh bien, c'est vrai que la semaine dernière, nous vous parlions d'énergie renouvelable et on continue avec la pompe à chaleur qui puise la chaleur dans l'environnement extérieur, dans l'eau, l'air ou la terre, pour la transformer en énergie thermique et chauffer un logement. En plus d'être écologique, rappelons-le, c'est économique. Si vous avez une chaudière au fioul, remplacez-la immédiatement par une pompe à chaleur. Cela réduit votre facture de chauffage de 50%. Il existe plusieurs types de pompes à chaleur, mais la plus installée est la aérothermique. Elle fonctionne en duo RR ou RO, la plus installée car elle n'implique pas un gros chantier, son utilisation est simple et elle est plus accessible financièrement. Je vous rappelle qu'installer une pompe à chaleur aura un impact sur votre facture, jusqu'à 50% d'économie, sur votre confort, vous passerez l'hiver au chaud et l'été au frais, sur notre planète, et elle utilise une énergie totalement naturelle. Alors, côté prix, il faut prévoir entre 5 000 et 20 000 euros. Alors, c'est une fourchette, voire un râteau, c'est vrai, mais c'est en fonction du modèle choisi. C'est un investissement important, mais par chance, qui est aidé par la prime énergie, ma prime rénov.
Merci Katia. Marc, on enchaîne sans transition avec un ouvrage, un livre que je voulais vous présenter, car je sais, oui je le sais, je pense que nos auditeurs le savent aussi, que vous êtes fan de design et de décoration. Eh bien ça tombe bien, j'ai l'ouvrage qu'il vous faut, un guide signé Le Journal de la Maison qui dresse le portrait de 200 meubles et objets stars du design tels que la lampe Pipistrello, le fauteuil Acapulco, la bibliothèque Billy. En gros, ce sont 200 incontournables du design qui sont passés à la loupe dans cet ouvrage et c'est à découvrir en kiosque actuellement.
Eh bien, le rendez-vous est pris dans le kiosque. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Merci à vous également, Katia Léal, responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie.
Et merci surtout à vous, Marc. On se retrouve dans quelques instants. Et dans le mag de la semaine, on va recevoir Jean de la Rousserie, directeur général adjoint d'Allo Diagnostic, et Corinne Joly, comme d'habitude, présidente de Particulier à Particulier. On va parler audit énergétique. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le mag de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier.
Avec mon expert Rénovation Énergie.
C'est la suite dont parle Imo, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, toujours bien sûr avec Marc Ezrati. Tout de suite, c'est le mag de la semaine.
Et on en a parlé plusieurs fois dans Parlimo, la loi climat et résilience prévoit un certain nombre d'obligations pour les propriétaires. Et là, justement, il va y avoir de nouvelles mesures qui vont s'appliquer à partir, normalement, de septembre, prochainement en tout cas. On en parle ce matin avec Jean de la Rousserie, les directeurs général adjoint d'Allo Diagnostic, et Corinne Joly, on l'a dit, présidente de PAP.fr. Corinne, on va commencer par vous. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus à la rentrée ?
Alors, il y a deux choses qui vont nous tomber dessus. La première, c'est le gel des loyers pour les passoires thermiques, c'est-à-dire que les propriétaires de passoires thermiques ne pourront plus appliquer la révision de loyer. Alors, je pense que ça n'aura pas un impact énorme parce qu'en réalité, la révision de loyer, peu de propriétaires la font. Par contre, il y a un deuxième point qui concerne là plutôt les vendeurs qui, à mon avis, va avoir un peu plus de répercussions. C'est l'obligation de fournir un audit énergétique pour les passoires thermiques lors d'une vente. En d'autres termes, si vous êtes F ou G, il va falloir faire une paperasse en plus, l'audit énergétique.
Donc, ce que vous me dites ce matin, c'est qu'on ne pourra plus vendre un logement classé F ou G sans avoir réalisé un audit énergétique. Mais ça risque de bloquer des ventes, ça, non ?
Non, alors ça ne va pas bloquer les ventes, mais si vous découvrez cette obligation la veille de votre signature chez le notaire, bah forcément, il va falloir décaler le rendez-vous chez le notaire car il ne signera pas la vente sans cet audit. Alors, faire un audit énergétique, ce n'est pas plus compliqué que de faire des diagnostics, donc ça ne va pas vraiment complexifier la vente. Mais par contre, ça a un coût qui va s'ajouter à celui des diagnostics et des prêts état daté pour ceux qui sont en copropriété. Donc, ces démarches obligatoires lors de la vente d'un bien, elles viennent surtout alourdir la facture.
Bonjour Jean de la Rousserie.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Directeur général adjoint d'Allo Diagnostic. Alors Jean, vous justement, vous faites des diagnostics de performance énergétique. Qui est concerné par ces nouvelles mesures ?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est environ 16% des DPE qui sortent avec une étiquette classée en F ou G, donc passoire énergétique. Ensuite, les différents biens, il n'y a pas vraiment de distinction. On peut avoir des passoires énergétiques, que ce soit dans les maisons individuelles ou les appartements, que ce soit en ville ou en zone rurale. Mais ce qui est sûr, c'est que quand un bien date d'avant 75, il est plus exposé à une mauvaise note et avec un facteur aggravant quand il est chauffé au fioul ou à l'électricité.
Alors, dites-moi, qu'est-ce que vont devoir faire les vendeurs de ces biens ?
Alors, tout d'abord, faire les diagnostics réglementaires, hein, donc, dont le DPE fait partie. Donc c'est pour ça qu'il va sur le site allodiagnostic.com ou directement sur le site de PAP.fr. Et donc là, ils pourront trouver notre tunnel de commande où ils pourront faire une demande de devis en ligne ou directement commander et prendre un rendez-vous pour réaliser ces diagnostics réglementaires. Et à la lecture des notes, il faudra, si les notes DPE sont classées F ou G, générer un audit énergétique.
D'accord. Et on prend rendez-vous avec la même personne pour ce fameux audit ?
Alors, potentiellement oui, mais de fait, ce sera rarement le cas, puisque déjà, quand on planifie les interventions, on ne sait pas d'abord si le logement sera classé en F ou G avant d'intervenir. Et puis, il faut savoir que tous les experts ne seront pas forcément habilités à le faire. Il va falloir suivre une formation pour ça. Et voilà, 16% des notes DPE nous fait penser que tous les diagnostics ne se lanceront pas dans cette compétence.
Alors, est-ce que justement en septembre, ça risque pas d'être impossible de trouver un rendez-vous pour faire un audit énergétique ?
Alors, c'est bien possible qu'il y ait un goulot d'étranglement là jusqu'à la fin de l'été. Puisque il va falloir qu'on gère les stocks, donc tous les biens qui sont à vendre en ce moment, plus tous les nouveaux qui vont arriver
à la rentrée. Ouais.
Le décret d'application vient de tomber, donc là vraiment tous les logiciels métiers, les centres de formation sont debout sur les étriers pour être à l'heure le plus vite possible. Et donc voilà. Mais ensuite, on a calculé que ce sera environ une centaine de milliers d'audits par an. Donc la profession est complètement armée pour faire face à ces volumes par la suite.
Ouais. Alors, le rapport de l'audit, il dit quoi ?
Alors, il va. Donc, le but, c'est de sortir de la passoire énergétique. Donc, on va viser, en fait, la note B pour tous ces logements classés en F ou G. Et il y aura différents bouquets de travaux, avec un premier scénario qui ira directement chercher cette note B, et puis un deuxième scénario de travaux.
Où on monte une classe.
Exactement.
En une classe. D'accord.
Étape par étape. Et puis, il sera intégré à cet audit un chiffrage estimatif des travaux à prévoir.
Alors, le vendeur, il n'a qu'à faire cet audit, mais il n'a pas obligation à engager les travaux.
Non, c'est encore à titre purement informatif.
D'accord.
Il faut savoir quand même que on fait un chiffrage pour ça peut être l'isolation des murs, donc extérieur ou intérieur. Ça va être le remplacement des huissiers, de la ventilation, des systèmes de chauffage, etc. Donc c'est quand même des travaux qui sont assez lourds. On estime en moyenne entre 40 et 50 000 euros le chiffrage.
Ouais, c'est pas rien.
C'est pas rien. On peut bien évidemment pas obliger les propriétaires à le faire. Mais par contre, voilà, en tout cas, l'acquéreur s'engage en pleine connaissance de cause.
Alors, tiens, justement, Corinne, ça peut avoir un impact sur le prix de vente, cet audit énergétique?
Oui, alors sachant que de toute façon, là, au fur et à mesure, là, les acheteurs sont de plus en plus sensibilisés à ce problème. Mais là, c'est vrai que je pense que cet audit va en rajouter une couche, notamment le fait que les travaux soient chiffrés. Parce que quand vous achetez un bien classé F ou G, que vous ne savez pas forcément ce que ça demande pour le remettre, en classe, dans une meilleure classe énergétique, la négo est potentiellement plus difficile. Là, vous allez avoir un chiffrage. Si vous apprenez qu'il va falloir 40 000 euros de travaux, vous avez un argument très concret à donner au vendeur pour lui faire baisser son prix de vente. Donc, si le vendeur il en a pas déjà tenu compte dans son estimation, la réception de l'audit énergétique, ça risque de faire une petite douche.
Oui, ça j'imagine bien. Jean de la Rousserie, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui vont bientôt vendre leur bien ?
Eh bien, le conseil le plus précieux que je peux donner, c'est d'anticiper. Parce qu'il faut savoir que déjà, ça fait déjà un moment que le DPE, la note DPE doit être affichée sur les annonces dès la mise en vente des biens. On voit que ce n'est pas encore le cas. Les vendeurs s'y prennent encore trop au dernier moment. Et donc là, s'ils continuent à s'y prendre au dernier moment, ils risquent d'avoir des surprises si leur bien est classé en passoire énergétique, puisqu'ils devront générer un audit juste derrière et donc potentiellement décaler la vente.
Merci beaucoup Jean de la Rousserie d'être passé ce matin par les studios de Sonora Radio, directeur général adjoint chez Allo Diagnostic. Vous rappelez le site internet ?
Allodiagnostic.com.
Allodiagnostic.com.
Ou PAP.fr.
Et Corinne, Corinne, un mot, en un mot, un dernier conseil.
Alors non, c'est en plusieurs mots quand même. Je rejoins vraiment Jean sur la question de l'anticipation. C'est souvent les diagnostics qui sont faits un peu tard. Ils sont faits comme une formalité, une obligation, etc. Et moi, je pense que pour la négociation, c'est vraiment pas une bonne chose d'avoir une surprise. Si vous avez trouvé un accord, vous avez un acheteur, vous êtes d'accord sur un prix, et que tout d'un coup, deux jours avant de signer, il se rend compte qu'il y a un audit énergétique avec 40 000 euros de travaux, vous n'allez pas être en position de force pour négocier. Donc il faut faire ces diagnostics assez tôt. Vraiment, là, je m'adresse aux vendeurs. Il faut l'anticiper parce que c'est comme ça que vous pourrez avoir un bon discours. Il faut que vous sachiez ce que vous présentez. Il ne faut pas que vous le découvriez en même temps que l'acheteur. Donc faites vos diagnostics. Tenez-en compte dans l'estimation du prix. Si vous avez une passoire thermique, voilà, c'est comme ça, il y en a plein en France. Et puis du coup, anticipez le sujet avec l'acheteur. Dites-le, voilà, c'est une passoire thermique. C'est un logement classé F ou G. On a fait un audit énergétique. Voilà les bouquets de travaux. Et un point intéressant, c'est que même s'il y a 40 000 euros de travaux, il y a des aides. Et notamment, je crois que dans les rapports d'Allo Diagnostic, elles sont mentionnées. Donc, exactement, vous pouvez anticiper le sujet et dire, mais attention, ça ne vous coûtera pas 40 000 euros, ça vous coûtera 20 000, ça vous coûtera 10 000, parce que vous pouvez bénéficier d'aides. Et en disant ça, vous rassurez l'acheteur et votre négociation sera peut-être plus facile.
Corinne, on se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler d'immobilier tous les deux. Aujourd'hui, on va parler des tiny houses.
Allez, dites-le mieux encore. Tiny house.
Tiny house, ouais, bon, voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est toutes petites maisons qui font un malheur en France actuellement.
Et on verra si ces petites maisons égalent petit prix ou pas. Allez, on parle immo, c'est dans quelques instants sur Sud Radio. Et tout de suite.
PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente.
Sud Radio, on parle immo.
On parle immo, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, la suite. On est toujours bien sûr avec Marc Ezrati et c'est l'heure du coaching immobilier avec Corinne Joly que l'on retrouve, présidente de particulier à particulier PAP.fr. Et aujourd'hui, Marc, on parle des
Tiny House.
Des tiny house.
Voilà, des tiny house.
Pas ouais. mal.
Bon, alors Corinne, justement, on va donc parler de ce phénomène hein, qui prend de l'ampleur en France, les tiny house. Donc, je sais pas, bon, bref, mon accent est pourri, tout le monde le sait et tout le monde en est témoin. Et pour commencer, ben, c'est quoi?
Alors déjà, je vais vous simplifier la vie, c'est une toute petite maison. Voilà, vous Merci. Pouvez le dire en français maintenant. Ça va de 15 mètres carrés à 50 mètres carrés et c'est généralement autonome en énergie. Donc, pas de problème de performance énergétique cette fois. C'est sans fondation, donc ça se construit très vite. Et c'est vrai que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Notamment, on voit sur YouTube des vidéos avec des centaines de milliers de vues sur des gens qui ont décidé d'habiter une tiny house. Et même IKEA a créé sa tiny house. Mais il faut quand même nuancer. En pratique, peu de gens passent vraiment à l'acte. On reste quand même sur un marché de niche. Il y aurait environ 1 000 000 de tiny house en France, dont la moitié sont des locations de vacances, parce qu'en fait, on veut bien vivre dans une toute petite maison, mais juste une semaine. Et puis, beaucoup d'autres servent d'extension de maison. Voilà.
Alors, pourquoi, si les gens en rêvent, ça ne se développe pas plus ?
Alors les gens en rêvent parce que ça fait écho aux aspirations du moment, la nature, l'autosuffisance, le minimalisme, mais la mise en œuvre, elle est quand même compliquée parce que déjà le minimalisme, c'est sympa en théorie, mais en pratique, il faut quand même une certaine volonté. Et puis, en fait, il y a quand même aussi des règles à respecter. On ne fait pas ça n'importe où, n'importe comment. C'est pour ça qu'en dehors du tourisme, l'usage le plus fréquent, c'est donc l'extension de maison parce que, pour le coup, une tiny house, c'est beaucoup plus simple à faire qu'une extension.
Et bon, ok, mais ça ressemble à quoi une tiny house?
Ok, je m'en fous. Non, okay. En fait, ça ressemble à un abri de jardin. D'ailleurs, en français, le terme le plus adapté, ce serait un studio de jardin. C'est une construction en bois. Niveau surface, pour les modèles à 15 mètres carrés, il y a en général 4 mètres carrés dévolus à une salle de bain. Et puis pour les modèles de 50 mètres carrés, là, on est plus proche d'un appartement de 2-3 pièces en duplex. Donc on peut vraiment s'en servir pour faire une chambre en plus, par exemple pour un enfant qui commence à être grand et qui veut son autonomie, ou un bureau pour télétravailler. Bon là par contre, il faut vérifier si le wifi de la maison arrive bien.
Non, sinon après il y a une clé 4G, hein, ça suffirait très bien.
Qu'est-ce qui est moderne?
Au niveau réglementation, ça marche comment?
Alors pour commencer, il faut s'assurer auprès de la mairie que le terrain est constructible, parce que même s'il n'y a pas de fondation, on ne peut pas poser des tiny houses partout. Et puis après, comme d'habitude, il y a une règle générale, c'est que si la surface est inférieure à 20 mètres carrés, c'est une déclaration préalable de travaux. Et sinon, si c'est au-dessus de 20 mètres carrés, c'est un permis de construire. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il faut tenir compte de toutes les règles locales que je ne vais pas détailler. Mais en gros, vérifier si vous êtes dans un périmètre protégé, en zone urbaine, il y a encore d'autres règles. Et puis, il y a des règles d'implantation des constructions et les servitudes de vue pour savoir à quel emplacement de votre jardin vous pouvez faire votre studio de jardin.
Du coup, Corinne, sur le plan fiscal, la tiny house, j'imagine que la taxe abri de jardin, elle s'applique dessus.
Alors déjà, la taxe sur les abris de jardin, ça n'existe pas. C'est un mythe. Ce qui est vrai, c'est que les studios de jardin, tout comme les abris de jardin ou toute construction de plus de 5 mètres carrés, c'est-à-dire que ce n'est pas spécifique aux abris de jardin, elles sont soumises à la taxe d'aménagement. Donc c'est valable autant pour la construction d'une maison que pour celle d'un studio de jardin dès lors qu'il fait plus de 5 mètres carrés. En fait, ce qui déclenche la taxe, c'est la procédure administrative que vous allez enclencher, donc soit la déclaration préalable de travaux, soit le permis de construire. Dans les deux cas, vous aurez donc une taxe. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut compter environ 800 euros par mètre carré, auquel il faut ajouter les taxes communales et départementales. Donc oui, comme d'habitude, il y a de la fiscalité.
Et puisqu'on parle
mais
d'argent...
Tout ça, ça casse le rêve, vous comprenez bien.
Oui, ça j'imagine. Ouais. Non, mais surtout pour moi. Puisqu'on parle d'argent, combien ça coûte une tiny house?
Dites un studio de jardin, je pense que ça Merci. Ira mieux. Donc un studio de jardin.
Une toute petite maison.
Voilà. Le prix d'un studio de 20 mètres carrés s'élève à 25 000 euros environ, auquel il faut ajouter les frais de livraison, d'installation et de raccordement. Et éventuellement les frais de préparation du terrain, ce qui peut entraîner quand même un surcoût total qui avoisine souvent les 10 000 euros, voire plus. Pensez à une chose, c'est que plus le studio est éloigné de la maison et des réseaux d'électricité et d'eau, plus la note augmentera parce qu'il faut bien raccorder quand même. Il y a des prestataires qui incluent ces frais annexes directement dans leur offre et qui ont donc tout inclus. Et là, pour 20 mètres carrés, bah, vous serez à peu près à 35 000 euros. Donc c'est quand même...
Ouais, c'est quand même pas donné. Hein.
Exactement.
Une yourte, ça serait pas plus... économique?
Alors, bah si, c'est plus économique qu'une yourte. Maintenant, si vous voulez installer votre fils qui commence à devenir grand, il va peut-être être moins content avec sa yourte. Donc oui, c'est moins cher, ça coûte entre 5 000 et 10 000 euros, mais c'est pas non plus le même niveau de confort et d'aménagement. Un studio de jardin, c'est enfin, comme un mobilhome ou une cabine de bateau, c'est vraiment ultra optimisé en termes de plan, de rangement et d'espace. C'est moins le cas pour une yourte, donc là c'est rigolo, mais c'est moins confortable. Et après, je voulais parler d'une autre alternative, peu connue pour l'instant, c'est le conteneur maritime. C'est le truc qu'on empile sur les ports et qui sont remplis de marchandises asiatiques. Eh bien, il est possible d'en acheter un et de le faire aménager en petit logement d'appoint. Alors, le conteneur, il coûte 2000 euros et pour l'aménagement, il y a des sociétés spécialisées, ça revient entre 1000 et 2000 euros par mètre carré. Donc bon, à la fin, le coût se rapproche du studio de jardin, mais c'est une autre ambiance, ça peut être rigolo, un conteneur maritime.
Conteneur, ouais. Voilà, le conteneur, c'est ça peut être pas mal ouais, pour installer un bureau au fond du jardin. Ok, pour finir, on s'adresse à qui si on veut installer un tel équipement dans son jardin?
Dans tous les cas, une société spécialisée, parce qu'on est sur des marchés de niche avec quelques acteurs spécialisés qui ne font que ça, qu'il s'agisse de studios de jardin, de yourtes ou de conteneurs maritimes aménagés. Donc je vous conseille de les chercher sur Internet, de regarder ce qu'elles ont déjà construit, de leur demander des exemples, et voilà.
Corinne, j'ai une petite info quand même. On a reçu, pas plus tard que hier, vendredi, un communiqué de presse qui nous annonçait une société qui fabrique des tiny house, que leur marché avait augmenté en un an de plus 234%.
Alors, c'est bien, je vous dis, effectivement, c'est tendance, mais attention, plus 234% sur 1000, ça fait toujours pas un truc
ça
dingue.
Oui, on est d'accord. Ouais,
voilà, ouais, c'est bon, il faut se méfier. Hein, les...
Mais enfin, c'est effectivement un phénomène qui se développe et on le voit puisque les constructeurs de ces tiny house nous informent, nous, à On Parle Immo et dans d'autres médias, de l'augmentation de leurs ventes récentes. Bah,
c'est un mode de vie très. Enfin voilà, c'est autonome en énergie, c'est quand même rassurant en ce moment. Hein.
Et c'est surtout quelque chose qu'on a vu apparaître après les confinements de 2020 et 2021. Merci Corinne.
De rien.
Merci Corinne pour toutes ces infos. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent aussi bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr. Tout de suite, on
va... Le coup de cœur, non?
Ah bah oui, c'est vrai que c'est le coup de cœur.
Bah alors, il a oublié le coup de cœur.
On parle Immo.
Bon, c'est moi qui vais le faire à la place de Marc Ezrati. On part où cette semaine?
On part où, Corinne?
On part dans un joli village du Quercy Blanc, un village de 400 habitants qui est situé dans le département du Tarn-et-Garonne. On est à 1 heure de Toulouse, 40 minutes de Montauban et 35 minutes d'Agen. Et c'est très charmant.
Et il s'agit d'une maison.
Oui, il s'agit d'une belle maison. Et pour le coup, ce n'est pas une tiny house. Elle est assez grande, toute en pierre. Et elle date, attention, de l'an 1450.
Oh là.
Voilà. Elle ne fait pas son âge puisqu'elle est en bon état et elle a un diagnostic de performance énergétique qui est à D. Donc c'est quand même pas mal pour une maison construite en 1450.
Oui, ça, je veux bien vous croire. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette maison?
De la pierre apparente, des poutres, du cachet, quoi. Et puis, accessoirement, il y a 7 pièces principales, dont 5 chambres, pour une superficie totale de 200 mètres carrés. Et petit détail, il y a une climatisation réversible, donc qui fait chauffage l'hiver dans toutes les pièces de la maison.
Est-ce qu'il y a un jardin dans sur cette propriété?
Alors oui, vous pouvez mettre des studios de jardin partout si c'est pas assez grand pour vous. Il y a plus d'un hectare de jardin et il y a même un lac de 2000 mètres carrés dessus. Mais pour se baigner, je vous recommande plutôt la piscine parce que
il y a aussi une piscine.
Eh oui.
Ouais, d'accord. Quel est le prix de ce bijou?
Eh ben, on est à 360 000 euros, ce qui fait 1800 euros du mètre carré. Donc c'est vraiment sympa pour se mettre au vert ou pour se lancer dans une activité de chambre d'hôte parce qu'on est aussi dans une région touristique.
Exactement.
Pas mal, bonne idée.
Merci Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. À très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut aussi contacter notre standard 0826 300 300.
Allez, tout de suite, c'est le 48 secondes avec Frédéric Fougerard.
Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes.
Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain.
Bonjour Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, peut-on se rétracter sans frais lors d'un achat immobilier?
Bonjour Marc, c'est une question importante et fréquente. Sachez que dès la signature du compromis de vente, le vendeur et l'acheteur d'un bien immobilier sont engagés. Par conséquent, ils doivent respecter cet engagement. Il existe toutefois des possibilités de rétractation pour l'acquéreur qui a signé le compromis de vente. Il peut en effet se rétracter sans avoir de dédommagement à payer au vendeur dans deux cas prévus par la loi. Le premier, lorsqu'il s'agit de l'acquisition de son bien d'habitation. La loi prévoit un délai de rétractation durant lequel l'acquéreur pourra renoncer à son achat sans justification. Il est de 10 jours et commence dès le lendemain de la signature. Le second cas prévu par la loi, c'est lorsque le compromis de vente comprend des clauses suspensives, comme l'obtention d'un prêt ou la faisabilité d'un projet de construction ou d'extension du bien. Il faut alors que ces conditions suspensives soient réalisées ou acquises dans le délai prévu par le compromis de vente. Attention cependant, le vendeur est en droit de demander à l'acheteur de prouver qu'il a bien engagé les démarches, sinon ce serait trop simple de renoncer à son engagement. Dans le cas où l'acquéreur refuserait de signer l'acte authentique sans motif réel ou passer le délai prévu, le vendeur pourra soit renoncer à la vente, mais demandera des dommages et intérêts, soit faire exécuter la vente en faisant condamner par voie judiciaire l'acquéreur à se rendre chez le notaire pour signer l'acte authentique de vente. Voilà Marc, vous savez tout sur les délais et motifs de rétractation lors de l'achat d'un bien immobilier.
Merci Frédéric Fougerat et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist TechWay sur la chaîne YouTube d'Emeria.
Allez, merci Marc et puis on se retrouve samedi prochain. On parlera des arnaques dans l'immobilier.
Les arnaques dans l'immobilier.
Waouh, quel teasing. Merci beaucoup.
Sud Radio, on parle immo.
Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.
Et puis à suivre, à partir de 10h, vos animaux, bien sûr, avec Natacha Harry. Et puis bravo, bravo à Roselyne qui nous appelait tout à l'heure de Sigean, près de Carcassonne, où vous nous écoutez d'ailleurs là-bas sur le 103.2. C'est Roselyne qui gagne pour la fête des mères et ce beau coffret, les Danesses Maison du Savon. Allez, à suivre dans quelques instants, un petit point météo.